Vous écoutez, on lit pour vous.
Co-gestion autochtone du parc national. Un texte de Marine Ernoult, paru le 8 octobre 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard sera dorénavant co-géré par les Premières Nations Mi'kmaq de la province. Une entente historique a été signée en ce sens mardi 1er octobre. Dans les prochains mois, un comité de gestion collaborative sera mis sur pied. Les Premières Nations Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard seront désormais étroitement associées à la gestion des sites administrés par Parc Canada dans la province. Le mardi 1er octobre, Parc Canada a signé avec le gouvernement autochtone de l'île une entente qui officialise une nouvelle structure de gouvernance partagée. Il s'agit de la première annonce de co-gestion à l'échelle de toute une province. En 2017, l'Agence fédérale avait reçu un mandat d'Ottawa pour négocier des accords et faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations des Maritimes qui ont signé des traités de paix et d'amitié. L'entente actuelle s'appelle Tokuk-Meki, qui veut dire « s'attaquer ensemble à des projets » dans la langue des Mi'kmaq. Elle prévoit la création d'un conseil de co-gestion de 5 personnes au sein duquel siégeront des représentants des Premières Nations d'Abegwate et de Lennox Island. Ils pourront participer à la planification, à la gestion, à l'exploitation et à la surveillance du patrimoine culturel et naturel des sites administrés par Parc Canada. Tokuk-Meki nous permet de progresser sur la voie d'une véritable réconciliation en reconnaissant les racines profondes et étendues que nous avons en tant que Mi'kmaq avec nos terres traditionnelles, se réjouit dans un communiqué le chef Roderick Gould Jr. de la Première Nation d'Abegwate. Officialiser de vieilles relations. C'est une étape importante qui favorise la progression de l'autodétermination et de l'autonomie des Mi'kmaq. Ça permet de rétablir notre rôle d'intendant sur nos terres, poursuit l'organisme Mi'kmaq El Noué dans une réponse par courriel. Du côté de Parc Canada, la conseillère en relations autochtones, Lauren Gauthier, considère que c'est un moyen de reconnaître et de respecter les droits des Mi'kmaq insulaires. Ce partenariat donne un caractère formel à des relations de collaboration et de travail qui existent depuis des années, selon l'employé de Parc Canada. Elle cite, entre autres, le programme de surveillance des espèces en voie de disparition ou encore l'initiative Promesse au parc pour sensibiliser le public à l'importance de préserver l'environnement. Les deux sont menés de concert avec les communautés autochtones. Les Premières Nations d'Abegwate et de Lennox Island ont également joué un rôle de premier plan dans la création, plutôt cette année, de la nouvelle réserve du parc national de Pituamkeek. Ottawa promet d'investir 107 millions de dollars au cours des 12 prochaines années pour la protection d'un chapelet d'îles barrières de 50 km sur la côte nord-ouest de l'île. À l'avenir, l'organisme El Noué insiste dans son courriel de réponse sur l'importance de veiller à ce que les connaissances et les pratiques traditionnelles des Mi'kmaq soient prises en compte dans l'utilisation et la protection des terres pour le bien des générations futures. C'était Co-gestion autochtone du Parc national. Un texte de Marine Ernould, paru le 8 octobre 2024 dans La Voix acadienne de l'île du Prince-Édouard.
Le retour des annulés. Un texte de Marie-France Bazot, paru le 8 octobre 2024 dans La Presse. Lorsque j'ai lu un article du Journal de Montréal début octobre 2024 à propos du chanteur Kevin Parent, qui disait regretter ses comportements passés qui avaient mené à son annulation, je me suis dit « ça y est, on est dans une nouvelle mouvance, celle du retour des annulés ». À l'été 2020, une importante vague de dénonciations avait touché de nombreux hommes visés par des allégations de nature sexuelle. Parent était l'un d'eux. 4 ans plus tard, il revient sur cette période qui l'a profondément troublé. Il n'est pas le seul des annulés québécois à tenter, amorcer ou réussir un retour. Ces derniers temps, on a ainsi pu assister au retour de Marie-Pierre Morin à la radio. Betty Bonifaci a donné à la fin de l'été 2024 2 concerts à guichets fermés, ses premiers après l'annulation de Slav pour appropriation culturelle. Éric Lapointe remplit ses salles et voit appliquer ses fidèles. L'humoriste Julien Lacroix, de petite en moyenne salle, renoue avec le public en racontant son bannissement dans un spectacle réussi, selon moi. Ça commence à faire du monde. Là, tu te demandes, ben voyons, y a-t-il une note officielle invitant tous les annulés de la province à revenir sous les spots? Le temps des thérapies est-il terminé? Les peines ont-elles été levées par un comité secret de l'UDA? Ai-je raté un bout? Intriguant et soudain que ce phénomène des retours. Mais avant de parler de retour, parlons d'annulation. Ça fait maintenant 10 ans que cette vague de fond qui consiste à exclure un individu de la vie sociale à cause de comportements condamnables pour des motifs divers a pris son élan. En 2014, l'animateur à succès de la CBC, Yann Gomeshi, à la suite d'allégations d'agression sexuelle, a lancé, bien malgré lui, le bal des annulés. L'affaire déclenchera les mouvements hashtag Being Raped Never Reported et hashtag Agression Non Dénoncée. En 2017, c'est l'affaire Weinstein, la vague hashtag MeToo, hashtag Moi aussi, hashtag Balance ton porc. En 2018, des accusations d'appropriation culturelle ont poussé le Festival international de jazz de Montréal à annuler le spectacle Slav. En 2020, Black Lives Matter conduit à des dénonciations pour des cas de racisme allégué, pensons à l'affaire Lieutenant Duval et aux mots qui commencent par N. Les raisons d'annuler sont multiples. Sensibilité exacerbée, agression ou viol avéré, en passant par des postulats idéologiques parfois violents. Les bannissements vise à exclure une parole d'un individu selon un axe du bien ou du mal qui ne laisse pas de place au doute. Une fois les suspects marqués du X de l'infamie et terrés honteusement dans leur sous-sol, que se passe-t-il? L'espace public est-il purifié? Pendant ce temps, tout le monde est sur ses gardes. Des universitaires s'autocensurent de crainte d'être cancellés. Ça fait donc 10 ans qu'on s'annule. Au début, on se posait fort peu la question de savoir ce qui advenait après. Les annulés quitteraient-ils progressivement ou massivement leur planque à une date officielle ou devraient-ils rester tapis, modestes, pour toujours? Oseraient-ils se représenter? tous ne sont pas passés par la justice officielle. Beaucoup ont été dénoncés sur des listes anonymes, d'autres accusés d'appropriation culturelle alors qu'ils étaient de bonne foi mais trop candides. Outre les bannis et les victimes, les annulations ont aussi fait des dommages collatéraux. Les familles, les proches des annulés. Plusieurs annulés se sont trouvés sans source de revenus, ont tenté de se recycler. La plupart ont conclu qu'ils ne savaient et n'aimaient faire que leur métier. Cela explique sans doute cette vague de retour à laquelle nous assistons actuellement. Un véritable processus est en cours. Ceux qui, dans le monde culturel, tentent un retour empruntent tous le même chemin. Travail sur soi, thérapie, repentance, modestie, petite salle, puis un passage médiatique calibré, un article ou une entrevue exclusive dans un show de télé avec l'espoir d'une rédemption prochaine. Tout cela pose de bonnes questions, fondamentales même. Qu'en est-il des victimes? Que pensent-elles de ces retours? Qui pardonne? Les pairs, le public, la société? Est-ce de l'autopardon? Qui peut revenir sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui n'est absolument pas pardonnable et qui ne reviendra jamais, ni sur une scène, ni à l'université, sous aucun prétexte? Qui sont maintenant les parias absolus? Dans tout ce processus, qui a gagné du pouvoir? La société, expurgée de ses pécheurs avérés et soupçonnés, est-elle devenue moins impure, plus propre? Plusieurs font désormais attention à ce qu'ils font et disent. Il y a eu d'indiscutables progrès, des changements sociaux sont survenus et se voient. Des codes de vie nouveaux s'imposent. Les grandes organisations se dotent de programmes EDI, équité, diversité et inclusion. Mais qu'est-ce que ce grand mouvement de retour dit de nous? Se pourrait-il qu'il couve dans le grand public un soupçon de ras-le-bol, un brin d'exaspération, voire un début de ressac face à des années d'annulation tous azimuts? Poser la question, c'est avancer en terrain miné. C'était Le retour des annulés, un texte de Marie-France Bazot paru le 8 octobre 2024 dans La Presse.
Le meilleur et le pire en nous, un texte de Boukhard Diouf, paru le 19 octobre 2024 dans La Presse. Les escapades dans les cimetières me font du bien. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes ces histoires sur le marbre m'attendrissent. Chaque inscription cache une biographie qui donne libre cours au cerveau de l'étranger qui le découvre. Beaucoup d'ego, de grandeur, de désir, de bonté, de jalousie, d'amour et de lutte de pouvoir reposent dans ces cités silencieuses. Le cimetière est le meilleur endroit pour se remémorer le caractère très éphémère de notre passage dans la biosphère, ce qui aide parfois à remettre les priorités à la bonne place. Dans celui du vieux Longueuil, on trouve de gigantesques arbres dont les racines superficielles serpentent et s'exposent par endroits entre les pierres tombales pour rappeler que nous serons amenés un jour à rendre à ces arbres ce qui appartient à ces arbres. Je devrais plutôt parler de restituer aux organismes photosynthétiques les matériaux qu'ils nous ont prêtés directement ou indirectement. Oui, nous sommes faits d'emprunts organiques que nous devons rembourser à la biosphère à la fin de notre vie. C'est peut-être cette dette que les racines qui serpentent entre les tombes réclament aux disparus. Si certains cimetières sont peuplés de personnes parties paisiblement à la fin de leur parcours, d'autres accueille massivement des victimes de la tyrannie et de la soif de pouvoir des hommes. Ainsi, cette semaine, dans son rapport consacré à la Journée mondiale de l'alimentation, Oxfam nous apprenait que 7 000 à 21 000 personnes meurent de faim quotidiennement à cause des nombreux conflits qui déchirent la planète. Les 54 pays touchés par des conflits totalisent 281,6 millions de personnes souffrant gravement de famine et 117 millions de déplacés. Non seulement les conflits causent des famines, mais les forces qui s'y affrontent utilisent aussi la faim comme arme de guerre. Pendant que les hommes tuent, la grande faucheuse applaudit et les corps s'entassent dans les nécropoles surpeuplées. En Ukraine, à Gaza, au Liban, au Soudan, au Yémen et ailleurs, les cimetières accueillent un nombre incommensurable de victimes du fanatisme religieux, de la tyrannie et des conflits territoriaux. De tous les primates, l'humain et le chimpanzé sont les seuls à user de cette forme de violence extrême. La primatologue Jane Goodall a été, en 1974, la première à documenter cette forme de guerre à l'extérieur de notre espèce. Elle nous a appris que les chimpanzés mâles peuvent organiser des expéditions punitives et avancer dans le silence pour aller décimer principalement les mâles d'un clan voisin. Objectif : étendre leur territoire, leur accès aux ressources et kidnapper des femelles pour agrandir leur groupe. Cependant, les niveaux de massacre auxquels peuvent se livrer les humains au nom de la religion, de l'ethnicité, du territoire ou de l'ego n'ont pas de comparable dans le vivant. Notre espèce est habitée par une grande violence envers les semblables, mais aussi envers le reste de la création. Si la Terre avait le pouvoir de retourner au début de la formation de notre lignée évolutive et changer de programme, je crois qu'elle s'opposerait à l'émergence de notre espèce. Triste est la destinée de ces personnes dont la renommée se mesure en litres de sang versé ou en nombre de vies enlevées. La folie de grandeur les empêche de réaliser que leur corps n'aura pas une destinée différente de la dépouille d'un écureuil ou de celle du vieux chien enterré dans le jardin. Qu'on l'imagine céleste ou terrestre, l'immortalité, quand on tient à la vie, ne console pas de la mort, disait Simone de Beauvoir. Il y a une petite légende qui raconte qu'au sommet de sa gloire, Alexandre le Grand aurait un jour demandé à un sage pourquoi il ne voulait pas s'incliner devant la puissance du grand conquérant qu'il était. Le vieillard lui aurait répondu avec discernement : « Roi Alexandre, aucune personne ne peut se prévaloir d'une surface de la terre plus grande que l'endroit où elle vit. Tu es toujours à voyager et soumettre d'autres peuples par les armes et la terreur. Mais bientôt tu seras mort, et alors, de tous ces territoires conquis, il ne te restera plus que la petite parcelle de terre suffisante pour enterrer ton corps. » S'il est utopique de rêver d'un monde sans violence, permettez-moi de parler du côté un peu plus lumineux de notre humanité. Cette semaine, en me promenant dans les cimetières, j'ai vu deux dames s'occuper soigneusement d'une tombe et y déposer des fleurs dans le silence. Lorsque je leur ai demandé qui reposait à cette place, une des femmes m'a répondu que c'était la tombe de leur maman. En voulant me raconter à quel point leur matriarche était une personne extraordinaire, elle a fondu en larmes. J'ai accueilli et partagé la peine de ces deux personnes qui, longtemps après son départ, gardaient encore un lien étroit avec leur mère. Cette forme d'immortalité n'est-elle pas l'idéal à atteindre? J'ai quitté le cimetière, le vague à l'âme apaisé, en pensant à ma propre maman qui professait « S'il est vrai qu'un humain n'est vraiment mort que lorsque les vivants l'ont oublié, mieux vaut cultiver le bien de son vivant. » C'était « Le meilleur et le pire en nous », un texte de Boukhard Diouf, paru le 19 octobre 2024 dans la presse.
Des inégalités, vous dites? Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue. J'en ai marre de me faire dire que discuter des inégalités hommes-femmes est d'un autre temps, parce qu'à force de jouer à l'autruche sur le sujet, les dites inégalités persistent, sous notre nez. Les sentez-vous? Certains font la sourde oreille. Pourtant, c'est évident, comme le nez au milieu du visage. Il y a même une certaine Taylor Swift qui le chante assez poumonné sur sa chanson « The Man ». Je vous suggère son excellent clip, qu'elle a d'ailleurs réalisé et dans lequel elle joue un homme, sous ses prothèses faciales et ses habits. Espérons que la jeune génération qui assiste à ses concerts des Eras Tours ne fera pas le sourd d'oreille. Cette chanson de Swift se retrouve d'ailleurs au générique du documentaire « Girl's State » 2024, réalisé par Amanda McBain et Jesse Moss, où l'on y découvre un programme politique donné aux jeunes filles dans le Missouri aux États-Unis. Ces jeunes femmes leaders et branchées issues de différents milieux plongent avec ferveur dans cette expérience immersive de construire un gouvernement. On veut les préparer à s'intéresser à la politique, les entendre parler de l'avortement, de Roe contre Wade et autres sujets qui les concernent, est fascinant. Puis, on apprend rapidement que le Boy State, qui a aussi fait l'objet d'un documentaire 4 ans auparavant, est quant à lui beaucoup mieux financé et respecté, car ce sont les réels leaders de demain. Ce qui agace le plus ces adolescentes? Les injustices. On dit aux jeunes filles du Girl's State quoi porter et qu'elles doivent se promener en binôme pour leur propre sécurité, alors que du côté du Boy State, c'est la liberté. Belle démocratie. Parlant de deux poids deux mesures, prenez la série documentaire America's Sweethearts, Dallas Cowboys Cheerleaders, 2024. À travers cet épisode, on suit le parcours de jeunes femmes qui rêvent de devenir cheerleaders pour le prestigieux club de la NFL, le Dallas Cowboys au Texas. Depuis les auditions jusqu'au camp d'entraînement et la saison régulière de la NFL, on suit les jeunes femmes qui tentent d'obtenir et de garder une place convoitée dans l'équipe. Sous le couvert d'une fausse solidarité, on invite ces jeunes femmes à créer une équipe. Dans sa recherche de l'excellence, l'équipe de sélection se justifie en écartant certaines filles en fonction de leur apparence physique. Qui plus est, une fois qu'elles ont suivi la formation et lorsqu'elles essaient l'uniforme, elles peuvent être rapidement remerciées, selon la taille de leurs seins, leurs fesses, leur poids, etc. Cette critique physique, au sein d'un sport basé sur l'apparence, surprend peu. En revanche, ce qui surprend, c'est que ces athlètes, au-delà de leur maquillage et leur costume, doivent faire preuve d'un dévouement sans vergogne, alors qu'elles sont loin d'être rémunérées selon leurs efforts, leur temps de pratique ou encore selon les risques physiques qu'elles assument. Plusieurs se retrouvent en chirurgie, hanches, genoux, etc., alors qu'elles n'ont même pas 30 ans. Les femmes de la série sont infirmières, avocates, étudiantes, etc. Puis, le soir, elles s'entraînent pour participer au championnat. Tout cela en étant peu rémunéré parce que c'est prestigieux d'être cheerleader pour le Boys Club. Selon les sources, on paye les jeunes filles de 12 à 20 $ de l'heure pour les pratiques et 400 à 500 $ pour les parties, et c'est la ligue de la NFL qui paie la mieux. Pendant ce temps, les joueurs de la NFL sont payés des millions de dollars. En 2024, Dak Prescott signe une extension à son contrat au coût de 240 millions de dollars jusqu'en 2028. Au top, une cheerleader est payée 70 000 dollars et doit retenter le coup chaque année, en plus de travailler de 9 à 5. Belle équipe égalitaire. Bien sûr, lorsqu'on regarde au niveau mondial, les petites histoires américaines d'égalité entre les sexes semblent bien dérisoires en comparaison avec d'autres pays. Prenons les nouvelles lois concernant les femmes afghanes. Désormais privées de leur droit à l'éducation, les femmes doivent se couvrir complètement le corps en public, y compris leur visage. Qui plus est, on ne doit pas entendre parler ou chanter les femmes en public. Bref, si vous vous promenez à Kaboul, vous verrez dans les rues des hommes et des fantômes. Devenant l'ombre d'elles-mêmes, les femmes y sont condamnées. Le gouvernement taliban, sous le couvert du ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice, prive la moitié de la population de ses droits humains fondamentaux. Les femmes sont assimilées à des animaux, des esclaves des temps modernes, quoique leurs lois barbares n'ont rien de moderne. Recluses à la sphère domestique, elles doivent tout faire pour l'homme et sont prisonnières, esclaves domestiques et sexuelles, d'un régime qui vénère l'homme et considère les femmes comme des objets. Ironique si l'on considère que ce sont ces femmes qui portent les progénitures des hommes. Avoir si peu de respect pour le droit des femmes, c'est finalement avoir peu de respect pour soi-même. Et ce, au nom de la foi. Un oiseau peut chanter à Kaboul, mais une jeune fille, une femme, ne peut le faire en public, comme le soulignait tristement Meryl Streep. Si le sujet vous intéresse, le journaliste et romancier français Kamel Daoud vient de publier le livre « Houri », finaliste au prix Goncourt. Dans cet ouvrage, qui relate l'histoire d'une jeune femme muette dans la vingtaine, Daoud condamne notamment la complaisance envers la misogynie des islamistes qui fait des ravages dans la société algérienne. Cela dit, l'Occident n'est guère mieux. Prenez ce fait divers et incroyablement tragique où un homme aujourd'hui septuagénaire a drogué sa femme durant son sommeil, puis a invité des dizaines d'hommes à la violer, et ce, pendant près d'une décennie. Aujourd'hui, l'agresseur et les 50 autres plaident coupables devant un tribunal français. Ceci est l'histoire horrible de Gisèle Pelicot. Mais combien d'autres histoires de la sorte demeurent sous le silence? C'était « Des inégalités, vous dites? » Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue.